La main verte d'Alain Baraton. Bonjour Alain.
Quel bonheur d'être avec vous. Bonjour Eric. Bonjour Karine. Bonjour à tous.
Quel bonheur de vous recevoir chaque week-end. Ce matin, on va parler du Diefenbachia. C'est une plante d'intérieur connue de tous.
Et oui, et appréciée pour ses grandes feuilles très décoratives et panachées vert et jaune.
Alors pourquoi ce nom? D'où vient-il et de quelle région?
Alors le Diefenbachia pousse naturellement en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Il a été appelé ainsi en 1829 par un botaniste autrichien en hommage à Joseph Diefenbach, tout simplement. Il était jardinier en chef des sublimes jardins du château de Schönbrunn, en Autriche, bien évidemment.
À Vienne. Est-il vrai qu'il faut éviter de toucher cette plante?
Alors, pour répondre comme il se doit à cette question, éviter les polémiques stériles, j'ai interrogé directement un centre anti-poison. Et il est en effet avéré que le latex présent dans les feuilles et les tiges est très irritant. La projection de sève dans l'œil entraîne une vive douleur causée par une irritation pouvant aller jusqu'à l'ulcère cornéen, pardonnez-moi. À noter, et c'est important, que le chat est sensible à la toxicité de cette plante et il faut éviter que la grignote ou la griffe, sous peine d'entraîner des complications d'insuffisance rénale et des troubles nerveux. Et le centre anti-poison de me préciser que le taux de mortalité chez le chat n'est pas négligeable.
Bon, avec tout ça, est-ce qu'il est encore raisonnable d'offrir cette plante et même de la posséder?
Oui, il faut simplement être prudent avec les enfants et ne pas en avoir quand on a des chats. L'une des plantes les plus toxiques en France est le muguet. Ce n'est pas une raison. Eh oui, ce n'est pas une raison pour cesser de célébrer comme il se doit le 1er mai. Il en est de même avec le Diefenbachia.
Vos conseils à présent, Alain Baraton. Geneviève, elle voudrait vous parler de son euphorbe maculé. Parce que l'an dernier, il est apparu dans sa cour, cet euphorbe maculé qui a envahi depuis les plates-bandes, la pelouse, les allées. J'ai lu que cet euphorbe pouvait étouffer l'herbe. Vrai, faux, que faire?
C'est une plante assez envahissante qui nous arrive d'Amérique du Nord.
Ça
elle est là depuis quelques années. C'est une plante tapissante. On dirait presque une petite succulente, donc avec des feuilles très épaisses. Mmh. Elle tapisse la terre, se plaît dans toutes les terres un petit peu pauvrettes qui ont été chahutées. Vous savez, c'est partie du jardin qu'on entretient peu ou mal. Et puis petit à petit, elle peut effectivement se révéler envahissante. Alors, deux trucs. Alors, pas un truc extraordinaire, à savoir, on arrache quand on en a chez soi, et on utilise la binette, bien évidemment, mais quand on est vraiment envahi par cette euphorbe sur un gazon, là, il n'y a pas moyen, il faut refaire le gazon, mais mettez 1,5 cm minimum, voire 2 cm de terre au-dessus du niveau du gazon, car la graine d'euphorbe, on le sait trop peu, au-delà de 1,5 cm, ne peut pas germer. Donc c'est une manière, tout simplement,
de l'étouffer.
D'étouffer, pas la plante, mais les graines, c'est toujours ça.
Anna, un prunier est en train de pousser dans son jardin, mais il pousse ce prunier sous un vieux pommier. Alors elle se demande, est-ce que les deux arbres vont se télescoper et que faire?
Ils risquent malheureusement de se télescoper. L'un des deux va logiquement prendre le dessus sur l'autre. Déjà, il y en a un, le vieux pommier, qui a déjà installé son réseau racinaire et qui va puiser majoritairement l'eau présente dans le sol. Il y a les problèmes d'ombrage. Un fruitier, pour mûrir, enfin les fruits, ont besoin de quantité de soleil. Donc il n'est pas bon, généralement, que les arbres soient les uns contre les autres dans les vergers. Ils sont toujours espacés. Alors que faire?
La nature se faire.
Mais de temps en temps, on peut avoir de très beaux résultats également. Mmh. Et peut-être que finalement, le prunier et le pommier sont en train de vivre une belle histoire d'amour. Mmh. Et que de cette histoire, peut-être que des fruits vont naître.
C'est un romantique, notre Alain.
Il faut que vous écriviez
beaucoup
des
trop.
Livres sur les arbres.
Ça m'a beaucoup nui, vous savez.
Florence et son Crassula ovata. Vous nous direz ce que c'est. Un Crassula ovata qui a 15 ans. Et quand elle a voulu déplacer le pot, elle s'est rendue compte que le tronc et les branches était mou, tronc mou, branche molle.
Oui,
pourquoi?
Crassula, on l'appelle également arbre de jade. Vous connaissez, c'est une plante qui ressemble à un petit arbre, avec un tronc souvent épais, un peu façon baobab, mais c'est vraiment une caricature, et des petites feuilles rondes, très épaisses. C'est là encore une plante succulente. Eh bien, le Crassula, il y a deux choses qu'il n'aime pas beaucoup. C'est l'absence de lumière. Donc, l'absence de lumière favorise effectivement des problèmes de santé et le manque d'eau. La plante aime bien de temps en temps les périodes de sécheresse. Il est même conseillé entre deux arrosages de laisser sécher la terre. Mais manque d'eau plus manque de lumière, vous pouvez être sûr que ce sont donc les problèmes que rencontre notre ami.
Donc c'est réparable assez facilement.
Ça peut être réparable, mais attention, arrêtez également de déplacer les végétaux. Une plante, ses feuilles sont comme des capteurs. Quand vous installez chez vous, au-dessus de votre toit, des panneaux photovoltaïques, vous vous amusez pas à les déplacer en permanence. Il en est de même avec une plante. Elle a mis beaucoup d'énergie à produire des feuilles. Elle s'est orientée orientée par rapport au soleil et du jour au lendemain, pour un caprice ou un besoin, vous la changez d'emplacement, eh bien la plante en souffre, elle doit recomposer avec son environnement. Ce n'est pas simple. Les plantes, rappelez-vous, sont des êtres vivants.
Mince, pour trouver de la place à mon sapin, j'ai déplacé toutes mes plantes. J'espère que j'ai pas fait de bêtises.
Mais non, parce que les plantes savent que c'est Noël, elles feront un petit effort. J'en suis convaincu.
Vanessa a un sublime tilleul d'au moins 100 ans, mais elle vient de découvrir une horrible maladie dans le tronc. Alors, pas de précision dans le texte sur la maladie en question. Comment le guérir?
Écoutez, il y avait on ne peut pas guérir un arbre. Qu'on soit très clair, les produits miracles n'existent pas. Même les cicatrisants ne servent à rien. Il y a longtemps, je n'ai pas cité cette phrase que j'adore. L'un des plus grands botanistes américains s'appelait Alex Chigaud. Et cet homme disait que mettre du cicatrisant sur la blessure d'un arbre, c'est comme vouloir démarrer une Rolls en tapant sur le moteur avec une clé à molette. Vous voyez, voilà l'image. Ça ne sert à rien. Ce qu'il faut pour un arbre, c'est éviter les problèmes. Exemple simple. Nous sommes en pleine période de plantation. Alors, pour mettre des arbres d'une certaine dimension, on les attrape, on les manipule et on endommage l'écorce. L'écorce est extrêmement fragile chez un arbre. Et pourtant, l'écorce protège le végétal de toutes les agressions des insectes, du soleil, du froid, des virus, des bactéries. Protéger les arbres. Attention à leur épargner les chocs. Quand il y a un choc, c'est trop tard.
Ça, vous le dites très souvent. Hein.
Un choc, c'est-à-dire choc. Une question qu'on me pose souvent, des enfants qui jouent dans le jardin, est-ce qu'on peut planter un clou dans un arbre, dans un
Avez-vous tronc? D'autres questions, monsieur Delvaux? Hors de question. On ne plante surtout pas un clou dans un arbre.
Oui.
Sortez.
Bon, très bien, je sors. Un dernier conseil pour la route.
Dans le sillage de Bougainville, c'est un carnet de voyage signé Simone Madeleine Sampéré. C'est son tour du monde. En 9 mois, elle est partie à Rochefort. Elle est arrivée à Saint-Denis-la-Réunion. Cette femme est une passionnée du pinceau. Elle peint, de la photographie, elle photographie et du texte, elle écrit magnifiquement. Elle a dans son ouvrage un petit clin d'œil à Jeanne Barret. On en avait parlé ici même. Jeanne Barret, c'est la botaniste, la première qui a fait le tour du monde complet. Elle a donc écrit Simone Madeleine Sampéré dans le sillage de Bougainville. C'est publié chez l'Atelier des Grottes. Les coordonnées du bouquin sont sur le site Inter.